Il est beau de voir que Jésus, eh bien, nous apprend à prier. Et la première parole de sa prière, c'est « Père ». Voilà une chose merveilleuse. Et on comprend dès lors, par la révélation entière de Jésus-Christ, mais même par cette seule prière, que cette relation, on a une relation filiale avec celui qui nous a créés, le Créateur. Et cette relation filiale, qui avait été rompue au commencement du monde avec le péché originel, eh bien, est complètement restaurée avec le Christ. Il reste des traces, des combats, des pesanteurs pour nous, pour recevoir la grâce, mais la relation est réactivée. Et vraiment, nous n'appelons pas, Jésus ne nous dit pas, commencez votre prière en disant « Ô Créateur ». Non, Père. Père, c'est quelque chose de merveilleux comme parole. Ça veut dire que Dieu est à l'écoute de ses enfants, exactement comme il l'était avec Abraham. Vous voyez, comme cette relation familiale, finalement, de la religion chrétienne, ça nous introduit dans une grande famille dont le Père est aux cieux, dont le Père est à l'origine de tout ce qui existe, dont le Père est aussi la fin de tout ce qui est sorti de ses mains et qui doit y retourner. Et ce Père, ce Créateur, eh bien, il est à l'écoute de tous ses enfants. C'est une merveille. Sur ce constat, il nous faut demeurer le plus longtemps possible. Impossible d'avoir une prière sèche lorsqu'on constate cette grandeur ineffable de Dieu, pas seulement grand par la puissance, mais grand par la bienveillance. Il est Père. Et il nous permet d'avoir des relations, eh bien, comme avec nos pères. Vous voyez tous les petits-enfants de l'Assemblée, là, quand ils ont envers leur papa. Quelle simplicité. Eux, ils se posent pas, ils font pas beaucoup de manières, même pendant la messe, hein, pour aller voir leur papa. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Pendant cette messe, n'ayons aucune manière envers le Dieu que Jésus-Christ vient nous montrer, le Père céleste. L'exemple du père de famille, c'est ce que Jésus met sous nos yeux. Donc une bienveillance à toute épreuve, une bienveillance absolue. Et cependant, le respect de la liberté, c'est l'épisode de Sodome et de Gomorre, car il n'y a pas seulement cette bienveillance avec Abraham, qui est fidèle à Dieu, il y a aussi ce règlement de compte, ce jugement divin. Mais voyez, Dieu ne se contente pas des messagers qui lui ont dit qu'à Sodome, ça se passait mal. Il entend descendre lui-même, dit-il. Il ne juge pas d'une façon lointaine. Il va descendre, et il descend effectivement des cieux pour voir et juger par lui-même si ce qu'on lui a dit de Sodome et de Gomorre était vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il descend dans l'intériorité de chaque homme. Quels que soient ces hommes, quelle que soit leur position religieuse envers Dieu, il descend dans l'intimité la plus profonde de toutes ces créatures. Et là, il a un jugement qui est parfait. Sodome et Gomorre, ça représente vraiment l'épisode qui met la liberté humaine comme un défi, le défi de la liberté. Souvent, on peut dire, on peut regretter d'être libre finalement, mais on ne doit pas le faire. La liberté, c'est toujours un bien parce que ça permet d'entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Sans la liberté, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, on serait comme des animaux finalement envers le Créateur, on obéirait par instinct. Dieu, le Père, n'a pas voulu cela pour l'homme. Aussi, il y a le risque de la liberté, bien sûr. Alors Sodome, j'en profite là au passage pour rappeler, il y a un passage parallèle à Sodome, c'est le Gibéa. Gibéa, c'est la même histoire qu'avec Sodome, exactement pareil, et le même drame, finalement. Ce n'est pas une société libre. C'est Lot est le seul juste, Et encore est-il arrivé récemment, il est arrivé avec Abraham, il est neveu d'Abraham, il s'est installé là où les plaines étaient fertiles, les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et quand les envoyés vont venir le trouver pour juger de la nature de la société de Sodome et de Gomorrhe, eh bien les habitants vont essayer d'abuser les deux envoyés du Père, qui ne sont autres que Jésus et l'Esprit-Saint. Comprenez que c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas l'acte contre nature que dénonce saint Paul. L'acte contre nature, on est souvent crispé là-dessus par rapport à l'homosexualité. Mais c'est, en réalité, c'est pire, c'est beaucoup plus grave. Ce que l'Ancien Testament pointe du doigt, ce n'est pas tellement l'acte contre nature, c'est la société oppressive qui enlève toute liberté aux gens pour les obliger à embrasser des valeurs ambiantes, des valeurs libertines, mais qui ne sont pas du tout... Libertin ne rime pas avec liberté, justement. C'est une obligation. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, sont menacés de mort exactement comme Lot. Et comme le sera le Lévite de l'épisode de Gibéa. C'est cette société où il n'y a plus de choix et qui est complètement fermée à Dieu qui symbolise Sodome et Gomorrhe. Et ce sera repris sous la forme de l'Égypte un peu plus tard dans la narration de l'Ancien Testament. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est une société qui brûle, car c'est bien ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe, qui va brûler sous l'effet de ses convoitises, c'est une société qui s'auto-détruit. Voilà la grande leçon de l'Ancien Testament. Et je trouve que ça a plus de souffle que l'enseignement de saint Paul lui-même sur l'homosexualité. C'est plus profond, parce que c'est plus général. Saint Paul, lui, il regarde les cas individuels. Et même s'il parle de la société païenne en général, mais il reste au niveau de la relation personnelle, de la gestion personnelle de l'affectivité. Tandis que là, c'est carrément, ça rebondit au niveau sociologique, et on voit comment la religion a un impact sur une société. Nous avons au contraire, avec Abraham, de l'autre côté, si vous voulez, de Sodome et de Gomorrhe, se tient le Père avec Abraham à ses côtés. Et là, on assiste au contraire à la miséricorde. S'il y avait eu au moins 10 justes, eh bien, Sodome et Gomorrhe auraient été préservés. Mais il n'y en avait pas, il n'y avait que Lot, c'est le seul qui sortira. Et cette religion, c'est une religion familiale. Et c'est celle dont nous avons hérité, que Jésus a remise vraiment en place. Elle est fondée sur la confiance des croyants qui sont comme deux petits enfants devant leur père. Alors, le père de famille, c'est vraiment le pilier. Il est l'autorité, il est la lumière, celui qui enseigne aux enfants la vérité. Il est la responsabilité, il est toujours disponible. Il est le consolateur. Il est celui qui fait grandir, l'éducateur. Il est celui qui rassure. Il est tout cela, le Père. Et c'est une vocation merveilleuse que d'exercer, même au niveau humain, la paternité. C'est une grande chose. On est le miroir de Dieu quand on agit ainsi, quand on est dans cette vocation. Le respect du Père, malheureusement, sous l'angle de la liberté, eh bien, est contrebalancé par le rejet du Père. Les hommes qui rejettent le Père, donc symbolisés ici par les habitants de Sodome et de Gomorrhe, eh bien, c'est un homme orphelin qui est toujours à la recherche de ses origines et de son destin. Exactement comme la psychologie de l'orphelin. L'orphelin, c'est un homme fragile, en même temps qu'aveugle, parce qu'il est sous le pouvoir des convoitises. C'est un homme, l'orphelin, celui qui rejette le Père, C'est un homme seul et malheureux, ce que le destin de Sodome et de Gomorre eh bien, nous montre. Un incendie gigantesque qui prélude à la guéhenne de feu dont parle Jésus dans ses enseignements. Alors, tenons-nous du bon côté, du côté du chêne de Mambré, là où Dieu lui-même vient montrer à Abraham eh bien, son mystère, et le mystère de Dieu, c'est le mystère de la Trinité. Voilà ce Dieu qui propose aux hommes de les introduire dans son intimité divine. Quel Dieu imaginé par l'homme eh bien, peut faire ça? Aucun. Il n'y a que Dieu qui puisse prendre une telle liberté, une telle initiative. Alors tenons-nous vraiment à ses côtés et suivons l'exemple d'Abraham, puisqu'Abraham était instruit par Dieu pour prier pour ce monde, afin que les hommes eh bien, cessent de rejeter Dieu, cessent d'être des orphelins, mais découvrent la filiation qui nous fait embrasser une vie de bonheur et d'équilibre. La vie humaine est difficile puisqu'elle est dans le combat. Mais au moins, n'augmentons pas la douleur de notre condition en rejetant Dieu. Au contraire, tenons-nous à ses côtés et profitons de sa bénédiction. Il est toujours prêt à nous donner, c'est ce que Jésus nous dit, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, alors là, c'est vraiment l'image de la maternité cette fois-ci. Dieu est tellement bon qu'il est prêt à nous donner une mère. Et Marie nous montre bien ce qu'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous fait ressouvenir de tout ce que Jésus a dit. C'est le consolateur, c'est aussi l'avocat. Quelle grâce que de vivre, que d'avoir en nos âmes cet Esprit qui est comme une onction, qui nous répare continuellement et qui nous protège. Comme la mère, comme les bras de la mère qui protègent le tout petit. Au cours de cette Eucharistie, vraiment, tournons-nous vers Dieu, notre Créateur, comme notre Père, et non pas comme un Dieu lointain.